France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture, nous sommes avec Maximilien Durand, historien de l'art, né en 1976, actuellement directeur du grand département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient, au musée du Louvre. Vous êtes l'auteur de nombreux articles universitaires et avant cela vous étiez à Lyon pour diriger le musée des tissus et musée des arts décoratifs. Un nouveau département au Louvre, donc, qui a été créé en 2022, avec un objectif d'ouverture, disons, dans les deux années qui viennent, et qui permettra au Louvre d'exposer des œuvres majeures couvrant une aire géographique et chronologique allant de l'Éthiopie à la Russie, du Caucase à la Mésopotamie, des Balkans au Levant, du 3e siècle de notre ère jusqu'en 1923. Bonjour Maximilien.
Bonjour Sébastien.
Alors si nous évoquons une ouverture à venir, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas commencé à travailler. Et sur ce point, je voudrais vous interroger sur la genèse d'un tel département. Un nouveau département, un grand département, vous nous expliquerez les différences, qui sera d'une certaine manière la figure de proue des collections françaises sur cette géographie, sur cette temporalité particulièrement conséquente, on va dire. Comment avez-vous commencé à travailler? Comment on rassemble déjà des collections qui sont dans des départements, qui sont peut-être même dans des lieux différents, pour créer cette unité, ce parcours à destination d'un grand public?
Alors, c'est vrai que la création d'un département au Louvre, c'est un événement. Il n'y a que 9 départements désormais au musée du Louvre. Et on peut s'étonner qu'il ait fallu presque 230 ans pour qu'un département soit consacré aux arts de Byzance et des chrétientés en Orient, alors même que l'art byzantin est présent au sein de la collection du musée du Louvre depuis la création même du musée. 1793, création du Muséum Central des Arts qui a pour objet de donner à la nation à voir les plus excellents témoignages du génie humain. Et quelques semaines après la création du Muséum Central des Arts, eh bien, ce sont des chefs-d'œuvre absolus de l'art byzantin qui rejoignent les collections du Louvre, notamment le reliquaire de la pierre du sépulcre qui provenait du trésor de la chapelle impériale à Constantinople, qui avait été acquis par Saint-Louis avec l'ensemble des reliques de la Passion, qui avait été déposée dans le trésor de la Sainte-Chapelle, construite pour abriter ces reliques de la Passion, et finalement nationalisée avec la Révolution, et donc il a rejoint les collections du Muséum Central des Arts. C'est le cas aussi du camée de lapis-lazuli incrusté d'or, qui faisait partie du trésor de l'abbaye de Saint-Denis. La collection, aujourd'hui, elle représente environ 20 000 œuvres, ce qui n'est pas du tout anecdotique.
Et ce qui veut dire que le Louvre expose déjà, bien entendu, des œuvres de l'époque byzantine.
Alors, le Louvre a exposé des œuvres de l'époque byzantine, mais très partiellement. Cette collection, c'est une collection de référence internationale. Notamment, c'est la première collection copte en dehors d'Égypte. C'est une collection de référence pour la période médiévale byzantine. Alors, on peut s'étonner que, finalement, il n'y ait pas eu de département plus tôt. Cela s'explique par la très lente conception d'une discipline dédiée à l'histoire de l'art byzantin qui avait été assez déconsidérée, Byzance étant perçue par le siècle des Lumières et leurs successeurs comme une décadence en fait de l'Antiquité. Donc vraiment, cela a à voir avec la perception que l'on avait de ces civilisations. Et cela est assez sensible hein, dans l'histoire des collections. En 1899, le département des Antiquités grecques et romaines achète un chef-d'œuvre de l'art byzantin, l'ivoire Barberini représentant l'empereur Justinien. Et cet ivoire est acquis non pas parce qu'il est un chef-d'œuvre de l'art byzantin, mais comme un témoignage de la décadence de l'art classique. Donc on comprend très bien que cette attitude, en fait, elle est largement partagée hein, à cette époque. C'est au début du XXe siècle que commence à émerger la conscience d'une singularité de la civilisation byzantine et des chrétientés en Orient. Et cette singularité, elle est aussi politique. On est dans une période où les États-nations vont revendiquer une particularité, notamment après la guerre d'indépendance de la Grèce, la volonté de se libérer du joug ottoman. Et donc, chaque pays des Balkans, notamment, va vouloir montrer qu'il est plus byzantin que son voisin. Donc, en fait, ça, c'est un peu l'origine de cette discipline. Il y a aussi un intérêt des historiens, des linguistes, et cet intérêt, il va se concrétiser en 1931. Avec l'organisation d'une exposition internationale d'art byzantin qui a lieu dans le Palais du Louvre, mais pas au Musée du Louvre, au Musée des Arts Décoratifs. Pour autant, le Louvre participe très considérablement à cette exposition sur plus de 1000 objets présentés, 100 proviennent de la collection du Louvre, 10% de l'exposition. Ça veut dire que le Louvre est déjà identifié comme une collection de référence.
En France et à l'international.
En France et à l'international. Alors, il faut quand même encore attendre des décennies pour que l'idée d'un département advienne, avec des tentatives, notamment à partir de 1954, la création d'une section des antiquités chrétiennes, qui a une existence assez brève, puisqu'elle sera dissoute en 1969. Mais cette section des antiquités chrétiennes va développer pour la première fois une politique d'acquisition dédié aux arts de Byzance et des chrétientés en Orient, va élargir aussi le champ en faisant l'acquisition par exemple d'icônes, et plus particulièrement d'icônes russes. Donc on voit que le Louvre se préoccupe dans cette vocation universelle de ne pas avoir un impensé qui serait Byzance et les chrétientés en Orient. Puis, dans la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il y a plusieurs événements qui vont amener cette idée des grandes expositions, notamment l'exposition Byzance, l'art byzantin dans les collections publiques françaises en 1992, organisée par Yannick Durand. D'autres expositions comme Arménia Sacra, Sainte-Russie, Chypre, le trésor de Plovdiv, qui font du Louvre une référence en termes de discours, mais pas encore en termes d'expertise ou de spécialité. L'idée d'un département naît au début du XXIe siècle et finalement, elle est affirmée dès 2021 par Laurence Descartes, qui vient d'être nommée nouvelle présidente directrice du Musée du Louvre et dans la première interview qu'elle donne à la presse, avant même sa prise de fonction, pour annoncer cette nomination, elle dévoile un projet qui est la création d'un département dédié aux arts de Byzance et des chrétientés en Orient. Et cet événement est très important puisque c'est finalement l'acte de naissance du département.
Nous parlions en introduction d'un grand département. Deux mots sur cette petite spécificité juridique.
Alors c'est très important puisque la volonté de Laurence Descartes, ça n'est pas seulement de créer un département de conservation au Musée du Louvre, mais bien de créer un grand département patrimonial. Au regard de la loi française, les départements du Louvre, ainsi que certaines grandes institutions comme le musée d'Orsay, comme le centre Pompidou, comme le musée d'archéologie nationale et quelques autres, sont ce qu'on appelle des grands départements. Ce qui veut dire que les compétences du chef du grand département ne concernent pas seulement son périmètre de collection, mais l'ensemble des collections du territoire national relevant de son champ. Et les grands départements ont un rôle réglementaire de conseil, d'expertise très important. Conseil aux acquisitions pour l'ensemble des musées du territoire français.
Parce qu'il faut nourrir ce département, il faut l'alimenter par des acquisitions. Et
ce rôle de conseil concerne les musées de France. Donc c'est différent de la politique d'acquisition du département lui-même. C'est-à-dire que le grand département est sollicité par l'ensemble des musées qui veulent faire une acquisition dans son champ. Et le grand département doit rendre un avis. C'est le cas aussi pour les restaurations. Le grand département doit valider le protocole de restauration choisi par les musées de France sur le périmètre de collection qui est le sien. Et puis, les grands départements rendent des avis préalables à la délivrance de certificats d'exportation lorsqu'une œuvre présente sur le territoire français va être dispersée par le marché de l'art et potentiellement être vendue à l'étranger. Ça, c'est un rôle très important puisqu'on a un rôle de régulation, de contrôle, de veille sur le marché de l'art. Et enfin, la quatrième obligation réglementaire, c'est les expertises que nous rendons dans le cas de saisie d'œuvres provenant du trafic illicite de biens culturels. Donc on a aussi un rôle important, on est un acteur majeur de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.
Qui est un très gros sujet dans le contexte actuel, j'imagine.
C'est un sujet capital dans le contexte actuel géopolitique. C'est un sujet extrêmement important aussi pour l'ensemble des musées. Très globalement, la provenance de nos collections est un sujet majeur. Les grands départements ont aussi un rôle d'animation de réseau. Et c'est l'occasion développer cette discipline par des réseaux nationaux, internationaux, ce que permet désormais la création du département.
Un autre aspect que l'on connaît peut-être moins, c'est que le Louvre n'est pas simplement un lieu d'exposition où on voit des œuvres et des belles collections, c'est un lieu aussi attaché à la conservation, à la préservation du patrimoine.
Tout à fait. Alors, on a dans les musées des obligations qui sont de conserver, de valoriser, de faire connaître nos collections, de les entretenir, bien sûr, et de les enrichir. Alors, la création de ce département, l'annonce de la création en 2021, elle est arrivée à un moment qui est très particulier, puisque à cette date, la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, la situation de l'Arménie était moins inquiétante, les événements du 7 octobre et leurs conséquences n'avaient pas encore enflammé le Proche-Orient. Donc ce département naît aussi dans un contexte géopolitique qui est particulièrement tendu et qui nécessite plus que jamais de souligner la richesse et la fragilité du patrimoine des chrétientés orientales. C'est aussi un moment où il est indispensable d'apporter de la nuance dans un monde qui devient de plus en plus chaotique. Ça, c'est un des rôles aussi du musée, par son exposition permanente, mais aussi par l'ensemble des activités du département. Donc, dès 2022, le département a été officiellement créé, en octobre 2022. Il existe pleinement, avec une équipe, des projets, et cette nécessité d'être en lien direct avec le monde contemporain, ses enjeux. On a parlé du trafic illicite des biens culturels, c'est un enjeu majeur. La question de l'identité aussi, c'est une question qui est fondamentale. La nécessité aussi de valoriser les collections par un récit qui soit intelligible. Et ça, c'est probablement un des enjeux majeurs aussi, qui rejoint les questions de médiation. Ces civilisations sont peu connues. La collection est remarquable. Elle illustre aussi des formes de beauté auxquelles on est peut-être moins habitué dans une histoire de l'art occidental. Il y a aussi cet enjeu d'éducation du regard qui en fait est une porte ouverte à la compréhension de l'altérité. Et dans le monde actuel, c'est quelque chose de très important.
Je pensais à la... j'ai utilisé le mot de conservation, je pensais à la restauration aussi. Je sais que le Louvre est très actif, qu'il y a un laboratoire dans les sous-sols du Louvre, un endroit un peu mystérieux d'ailleurs, où je crois qu'il y a un accélérateur de particules, si je ne me trompe pas, pour analyser justement la profondeur de ces œuvres. Vous êtes vous-même engagé dans cette... peut-être pas dans ce labo directement, mais dans cet esprit justement de restauration des œuvres, donc de préservation.
Alors si, on est très engagé avec le laboratoire et pour différentes raisons. Pour la préparation de l'ouverture des salles du département, pour préparer les collections à cette exposition, mais aussi pour des enjeux qui sont des enjeux un peu neufs dans ce champ, qui désormais est un des champs du Louvre, et je pense particulièrement à la question des icônes. Nous avons eu l'occasion de faire des acquisitions très importantes, de collections historiques, d'icônes très remarquables, qui permettent désormais au Louvre d'être une collection de référence internationale dans le domaine des icônes. De référence par le nombre d'icônes que nous avons pu réunir, mais surtout par leur diversité, puisque sont représentées les écoles grecques, crétoises, balkaniques, russes, du Levant. Donc on a vraiment une diversité allant du 8e siècle de notre ère, avec la très fameuse icône du Christ et de la Pamena, provenant de Bawit, en Moyenne-Égypte, jusqu'au début du 20e siècle, puisque c'est notre champ chronologique. Et donc on s'est engagé dans un programme de recherche extrêmement approfondie, à la fois sur la matérialité de ces icônes, c'est-à-dire les supports bois qui sont employés, les pigments, les techniques de création, pour avoir une connaissance extrêmement fine. Cette connaissance, elle nous permet aussi de comprendre mieux les pratiques qui ont été mises en œuvre dans la vie de ces icônes. Ces icônes, elles ont été en usage comme des objets de culte, et parfois elles ont fait l'objet d'interventions ultérieures, mais pour autant qui sont partie intégrante de la vie de l'œuvre. Et puis, il y a aussi des enjeux en termes de restauration. Les icônes sont une forme d'expression artistique singulière qui, en fait, déroute un peu les restaurateurs. Et on voit que les pratiques de restauration ont parfois été un peu différentes en fonction des régions, des époques, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, que les vernis employés dans le cadre des restaurations aussi posent parfois des questions. Et donc, on essaye de mettre en œuvre des pratiques qui soient les plus adaptées possibles à la restauration des icônes, les plus déontologiques, évidemment, donc pour respecter à la fois la matérialité des œuvres, pour permettre aux visiteurs de les voir dans les meilleures conditions et pour permettre leur vieillissement dans le temps optimal. Alors, cet enjeu de permettre aux visiteurs de les voir dans les meilleures conditions possibles, pour moi, il est fondamental. Je crois, j'ai déjà employé cette expression, mais qu'il y a une éducation du regard qui est absolument nécessaire pour les icônes. On est très habitué à contempler de la peinture italienne, de la peinture nordique, de la peinture française. On est beaucoup moins habitué à regarder cette expression qui est extrêmement codifiée, que l'on perçoit parfois un peu rapidement comme quelque chose de répétitif, de très permanent dans ces codes, qui en réalité est extrêmement inventif, innovant, qui compte des artistes qui sont d'excellents peintres. Et finalement, le statut un peu particulier de ces images fait qu'on oublie un peu la qualité de la peinture.
Maximilien Durand, une question sur le parcours, sur le récit que vous allez insuffler dans ce nouveau département. Comment on trouve un fil directeur, une sorte d'unité sur une aire géographique aussi vaste? Je parlais de l'Éthiopie jusqu'au Caucase, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, et sur une temporalité, donc 1923, qui est la fin de l'Empire ottoman, j'imagine. Quel sera votre récit, en fait?
Alors, tout à fait, c'est un challenge. Le parcours se déploiera sur environ 2500 m², en plein cœur de l'aile de Nons. L'aile de Nons, c'est actuellement au Louvre l'aile la plus visitée. C'est là où se trouve la Joconde, un certain nombre de chefs-d'œuvre. Ce positionnement du département dans l'aile de Nons est extrêmement signifiant, puisque le département sera physiquement connecté au parcours romain, au département des arts de l'islam, et à proximité des départements modernes de peinture et de sculpture occidentaux. Donc vraiment, dans la géographie même du Louvre, le département apparaîtra comme ce trait d'union indispensable à la compréhension du monde entre l'Orient et l'Occident. La collection, je vous l'ai dit, elle est très importante, 20 000 œuvres. Il n'est pas question d'exposer 20 000 œuvres. Il est question de faire des choix, et donc de mettre en œuvre un récit. Un récit où les questions d'identité résonnent très fort avec le monde contemporain. Et quoi de commun entre l'Éthiopie, le monde slave? A priori, pas grand-chose. En revanche, ce récit va être articulé de manière chronologique autour d'une idée principale, forte, qui est l'idée d'un rapport à l'image pour les chrétiens thésaurientales qui est très singulier. Ce rapport à l'image, notamment dans le contexte religieux, est une réflexion qui a été menée au cours du temps, considérant que la personne représentée, le Christ, la Vierge, les saints, est réellement présente dans l'image. Donc il y a cette question de présence réelle dans l'image qui explique la codification de cette image, puisque cette présence n'est effective que si certains codes sont mis en œuvre. Et ce rapport à l'image, il est singulier. Il est propre aux chrétiens thésaurientales, il est théorisé par les chrétiens thésaurientales au moment de la crise iconoclaste, entre 726 et 843. Il est donc pensé, réfléchi, et l'Occident va faire d'autres choix, considérer que l'image est une illustration, un support de dévotion, une œuvre d'art. Et d'autres choix vont également être faits par l'islam, qui décide de susciter la présence réelle au moyen de l'écrit, du verbe. Et donc c'est vraiment le propos du département.
Maximilien Durand, merci beaucoup d'être venu jusqu'à notre émission ce dimanche matin. Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon, Emmanuel Couturier pour la technique. Nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant de Solae. Bon dimanche.
Oh, ma jolie sultane brune, c'est l'heure de nos rendez-vous. Viens dans un rêve au clair de lune, nous partirons loin des jaloux. Dans le vieux port de Byzance, ou dans l'ombre et le silence, ma nacelle se balance au rythme des grands flots bleus. Les belles nuits du Bosphore seront plus belles encore. Près de toi, toi que j'adore, viens, partons tous deux. Toi qui fus longtemps prisonnière du sérail au triste séjour, viens pour une nuit tout entière, sois ma belle esclave d'amour. Dans le vieux port de Byzance, ou dans l'ombre et le silence, ma nacelle se balance au rythme des grands flots bleus. Les belles nuits du Bosphore seront plus belles encore. Près de toi, toi que j'adore, viens, partons tous deux. Sous la lumière des étoiles, nul ne verra notre bonheur. Loin, je t'enlèverai ton voile pour cueillir un baiser vainqueur. Bosphore seront plus belles encore. Près de toi, toi que j'adore, viens, partons tous deux.